Guy de Maupassant, une passion. La mer était brillante et calme, à peine remuée par la marée, et sur la jetée, toute la ville du Havre regardait entrer les navires. On les voyait au loin, nombreux, les uns, les grands vapeurs, empanachés de fumée, les autres, les voiliers, traînés par des remorqueurs presque invisibles, dressant sur le ciel leurs mâts nus comme des arbres dépouillés. Ils accouraient de tous les bouts de l'horizon vers la bouche étroite de la jetée qui mangeait ces monstres. Et ils gémissaient, ils criaient, ils sifflaient, en expectorant des jets de vapeur comme une haleine essoufflée. Deux jeunes officiers se promenaient sur le môle couvert de monde, saluant, salués, s'arrêtant parfois pour causer. Soudain, l'un d'eux, le plus grand, Paul d'Henri Sel, serra le bras de son camarade Jean Reynold, puis tout bas. « Tiens, voici Madame Poinceau. Regarde bien. Je t'assure qu'elle te fait de l'œil. » Elle s'en venait au bras de son mari, un riche armateur. C'était une femme de 40 ans environ, encore fort belle, un peu grosse, mais restée fraîche comme à 20 ans par la grâce de l'embonpoint. On l'appelait parmi ses amis la déesse, à cause de son allure fière, de ses grands yeux noirs, de toute la noblesse de sa personne. Elle était restée irréprochable. Jamais un soupçon n'avait effleuré sa vie. On la citait comme un exemple de femme honorable et simple, si digne qu'aucun homme n'avait osé songer à elle. Et voilà que, depuis un mois, Paul d'Henri Sel affirmait à son ami Reynold, dit que Madame Poinceau le regardait avec tendresse, et il insistait. « Oh non, sois sûr que je ne me trompe pas, j'y vois clair, elle t'aime. Elle t'aime passionnément, comme une femme chaste qui n'a jamais aimé. 40 ans est un âge terrible pour les femmes honnêtes. Quand elles ont des sens, elles deviennent folles et font des folies. Celle-là est touchée, bonbon. Comme un oiseau blessé, elle tombe, elle va tomber dans tes bras. Tiens, regarde. » La grande femme, précédée de ses deux filles âgées de 12 et de 15 ans, s'en venait, pâlie soudain en apercevant l'officier. Elle le regardait ardemment d'un œil fixe et ne semblait plus rien voir autour d'elle, ni ses enfants, ni son mari, ni la foule. Elle rendit le salut des jeunes gens sans baisser son regard allumé d'une telle flamme qu'un doute enfin pénétra dans l'esprit du lieutenant Reynoldi. Son ami murmura « J'en étais sûr. As-tu vu cette fois, bigre ? Mais c'est encore un riche morceau. » Mais Jean Reynoldi ne voulait point d'intrigues mondaines. Peu chercheur d'amour, il désirait avant tout une vie calme et se contentait des liaisons d'occasion qu'un jeune homme rencontre toujours. Tout l'accompagnement de sentimentalité, les attentions, les tendresses qu'exige une femme bien élevée l'ennuyait. La chaîne, si légère qu'elle soit, que nous toujours une aventure de cette espèce, lui faisait peur. Il criait « Oh, au bout d'un mois, j'en ai par-dessus la tête, je suis obligé de patienter 6 mois par politesse. » Puis une rupture l'exaspérait avec les scènes, les allusions, les cramponnements de la femme abandonnée. Il évita de rencontrer Madame Poinceau. Or, un soir, il se trouva près d'elle, à table, dans un dîner. Et il eut sans cesse sur la peau, dans l'œil et jusque dans l'âme, le regard ardent de sa voisine. Leurs mains se rencontrèrent et, presque involontairement, se serrèrent. C'était déjà le commencement d'une liaison. Il la revit, malgré lui, toujours. Il se sentait aimé, Il s'attendrit, envahi d'une espèce d'apitoiement vaniteux pour la passion violente de cette femme, et il se laissa donc adorer et fut simplement galant, espérant bien en rester au sentiment. Mais elle lui donna un jour un rendez-vous pour se voir et causer librement, disait-elle. Elle tomba pâmée dans ses bras, et il fut bien contraint d'être son amant. Et cela dura 6 mois. Elle l'aima d'un amour effréné, haletant. Murée dans cette passion fanatique, elle ne songeait plus à rien. Elle s'était donnée toute, son corps, son âme, sa réputation, sa situation, son bonheur, elle avait tout jeté dans cette flamme de son cœur, comme on jetait pour un sacrifice tous les objets précieux au bûcher. Lui en avait assez depuis longtemps et regrettait vivement ses faciles conquêtes de bel officier, mais il était lié, tenu, prisonnier. À tout moment, elle lui disait: Je t'ai tout donné, que veux-tu de plus? Il avait bien envie de répondre: Je ne te demandais rien et je te prie de reprendre ce que tu m'as donné. Sans se soucier d'être vue, compromise, perdue, elle venait chez lui chaque soir, plus enflammée toujours. Elle s'élançait dans ses bras, l'étreignait, défaillait dans des baisers exaltés qui l'ennuyaient horriblement. Il disait d'une voix lassée: Voyons, sois raisonnable. Elle répondait: Je t'aime. Et s'abattait à ses genoux pour le contempler longtemps dans une pose d'adoration. Sous ce regard obstiné, il s'exaspérait enfin, la voulait relever. Voyons, assieds-toi, causons. Elle murmurait: Non, laisse-moi. Et restait là, l'âme en extase. Il disait à son ami d'Henricel: Bon, tu sais, je la battrai. Je n'en veux plus, je n'en veux plus. Il faut que ça finisse, et tout de suite. Puis il ajoutait: Mais qu'est-ce que tu me conseilles de faire? L'autre répondait: Rond. Et Renoldi ajoutait en haussant les épaules: Oh, tu en parles à ton aise. Tu crois que c'est facile de rompre avec une femme qui vous martyrise d'attention, qui vous torture de prévenance, qui vous persécute de sa tendresse, dont l'unique souci est de vous plaire et l'unique tort de s'être donné malgré vous. Mais voilà qu'un matin, on apprit que le régiment allait changer de garnison. Reynoldi se mit à danser de joie. Il était sauvé. Sauvé, sans scène, sans cri, sauvé. Il ne s'agissait plus que de patienter 2 mois, sauvée. Le soir, elle entra chez lui, plus exaltée encore que de coutume. Elle savait l'affreuse nouvelle, et sans ôter son chapeau, lui prenant les mains, les serrant nerveusement, les yeux dans les yeux, la voix vibrante et résolue: Tu vas partir, je le sais. J'ai d'abord eu l'âme brisée. Puis j'ai compris ce que j'avais à faire. Je n'hésite plus. Je viens d'apporter la plus grande preuve d'amour qu'une femme puisse offrir. Je te suis. Pour toi, j'abandonne mon mari, mes enfants, ma famille. Puis je me perds, mais je suis heureuse. Il me semble que je me donne à toi de nouveau. C'est le dernier et le plus grand sacrifice. Je suis à toi pour toujours. Il eut une sueur froide dans le dos. Il fut saisi d'une rage sourde et furieuse, d'une colère de faible. Cependant, il se calma et d'un ton désintéressé, avec des douceurs dans la voix, refusa son sacrifice, tâcha de l'apaiser, de la raisonner, de lui faire toucher sa folie. Elle l'écoutait en le regardant en face, avec ses yeux noirs, la lèvre dédaigneuse, sans rien répondre. Quand il eut fini, elle lui dit seulement: Est-ce que tu serais un lâche? Serais-tu de ceux qui séduisent une femme, puis l'abandonnent au premier caprice? Il devint pâle et se remit à raisonner. Il lui montra, jusqu'à leur mort, les inévitables conséquences d'une pareille action, leur vie brisée, le monde fermé. Et il répondait obstinément, « Mais qu'importe quand on s'aime ?» Alors, tout à coup, il éclata. « Eh bien non, je ne veux pas, entends-tu ? Non, je ne veux pas, je te le défends. » Puis, emporté par ses longues rancunes, il vida son cœur. « Eh, sacrebleu, voilà assez longtemps que tu m'aimes malgré moi. Il manquerait que de l'emmener. Merci, par exemple, merci. » Elle ne répondit rien, mais son visage livide eut une lente et douloureuse crispation, comme si tous ses nerfs et ses muscles se fussent tordus. Et elle s'en alla, sans lui dire adieu. La nuit même, elle s'empoisonnait. On la crut perdue pendant 8 jours. Et dans la ville, on jasait, on la plaignait, excusant sa faute grâce à la violence de sa passion. Car les sentiments extrêmes, devenus héroïques par leur emportement, se font toujours pardonner ce qu'ils ont de condamnable. Une femme qui se tue n'est, pour ainsi dire, plus adultère. Et ce fut bientôt une espèce de réprobation générale contre le lieutenant Rinaldi, qui refusait de la revoir. Un sentiment unanime de blâme. On racontait qu'il l'avait abandonnée, trahie, battue. Le colonel, pris de pitié, en dit un mot à son officier par une allusion discrète. Paul Daricel alla trouver son ami. « Mais sacrebleu, mon bon, on ne laisse pas mourir une femme, c'est pas propre, cela !» L'autre, exaspéré, fit taire son ami, qui prononçait le mot « infamie ». Ils se battirent. Rinaldi fut blessé à la satisfaction générale, et garda longtemps le lit. Elle le sut, l'en aima davantage, croyant qu'il s'était battu pour elle. Mais ne pouvant quitter sa chambre, elle ne le revit pas avant le départ du régiment. Il était depuis 3 mois à Lille quand il reçut un matin la visite d'une jeune femme, la sœur de son ancienne maîtresse. Après de longues souffrances et un désespoir qu'elle n'avait pu vaincre, Madame Poinceau allait mourir. Elle était condamnée sans espoir. Elle ne voulait voir une minute, rien qu'une minute, avant de fermer les yeux à jamais. L'absence et le temps avaient apaisé la satiété et la colère du jeune homme. Il fut attendri, pleura et partit pour le Havre. Elle semblait à l'agonie. On les laissa seuls, et il eut, sur le lit de cette mourante qu'il avait tuée malgré lui, une crise d'épouvantable chagrin. Il sanglota, l'embrassa avec des lèvres douces et passionnées, comme il n'en avait jamais eu pour elle. Il balbutiait. « Non, 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 tu ne mourras pas, tu guériras. » Nous nous aimerons, toujours, elle murmura. Est-ce vrai? Tu m'aimes? Et lui, dans sa désolation, jura, promis de l'attendre lorsqu'elle serait guérie, s'apitoya longuement en brisant les mains si faibles de la pauvre femme dont le cœur battait à coups désordonnés. Le lendemain, il regagnait sa garnison. 6 semaines plus tard, elle le rejoignait, toute vieillie, méconnaissable et plus énamourée encore. Éperdu, il la reprit. Puis, comme ils vivaient ensemble à la façon des gens unis par la loi, le même colonel, qui s'était indigné de l'abandon, se révolta contre cette situation illégitime, incompatible avec le bon exemple que doivent les officiers dans un régiment. Il prévint son subordonné, puis il sévit, et Rinaldi donna sa démission. Ils allèrent vivre en une villa, sur les bords de la Méditerranée, la mer classique des amoureux. Et 3 ans encore se passèrent. Rinaldi, plié sous le joug, était vaincu, accoutumée à cette tendresse persévérante. Elle avait maintenant des cheveux blancs. Il se considérait, lui, comme un homme fini, noyé. Toute espérance, toute carrière, toute satisfaction, toute joie lui étaient maintenant défendues. Or, un matin, on lui remit une carte. Joseph Poinceau, armateur, Le Havre. Le mari qui n'avait rien dit. Comprenant qu'on ne lutte pas contre ces obstinations désespérées des femmes. Mais que voulait-il? Il attendait dans le jardin, ayant refusé de pénétrer dans la villa. Il salua poliment, ne voulant pas s'asseoir, même sur un banc dans une allée. Et il se mit à parler nettement et lentement. « Monsieur, je ne suis point venu pour vous adresser des reproches. Je sais trop comment les choses se sont passées. J'ai subi, enfin nous avons subi, une espèce de fatalité. Je vous aurais jamais dérangé dans votre retraite si la situation n'avait point changé. J'ai deux filles, monsieur. L'une d'elles est née et aime un jeune homme et en est aimée. Mais la famille de ce garçon s'oppose au mariage, arguant de la situation de la mère de ma fille. Alors je n'ai ni colère ni rancune, mais j'adore mes enfants, monsieur. Je viens donc vous redemander ma femme. J'espère qu'aujourd'hui elle consentira à rentrer chez moi, chez elle. Quant à moi, je ferai semblant d'avoir oublié pour mes filles. Rinaldi ressentit au cœur un coup violent. Il fut inondé d'un délire de joie, comme un condamné qui reçoit sa grâce. Il balbutia. Mais certainement, monsieur, moi-même, croyez bien, sans doute. Oh, c'est juste, c'est trop juste. Et il avait envie de prendre les mains de cet homme, de le serrer dans ses bras, de l'embrasser sur les deux joues. Il reprit. Entrez donc, vous serez mieux dans le salon. Je vais la chercher. Cette fois, M. Poinceau ne résista plus et il s'assit. Rinaldi gravit l'escalier en bondissant, puis devant la porte de sa maîtresse, il se calma, il entra gravement. « On te demande en bas, dit-il, c'est pour une communication au sujet de tes filles. » Elle se dressa. « De mes filles, quoi? Mais quoi donc? Elles ne sont pas mortes? » Il reprit, non, mais il y a une situation grave que tu peux seul dénouer. Elle n'en écouta pas davantage et descendit rapidement. Alors il s'affaissa sur une chaise tout remuée et attendit. Il attendit longtemps. Puis comme des voix irritées montaient jusqu'à lui à travers le plafond, il prit le parti de descendre. Madame Poinceau était debout, exaspérée, prête à sortir, tandis que le mari la retenait par sa robe, répétant « Mais comprenez donc que vous perdez vos filles, nos enfants !» Elle répondait obstinément « Non, je ne rentrerai pas chez vous. » Rinaldi comprit tout, s'approcha défaillant et balbutia « Quoi, elle refuse ?» Elle se tourna vers lui et, par une sorte de pudeur, ne le tutoyant plus devant l'époux légitime, « Mais savez-vous ce qu'il me demande? Il veut que je retourne sous son toit. » Et elle ricanait, avec un immense dédain pour cet homme presque agenouillé qui la suppliait. Alors Rinaldi, avec la détermination d'un désespéré qui joue sa dernière partie, se mit à parler à son tour, plaida la cause des pauvres filles, la cause du mari, sa cause. Et quand il s'interrompait, cherchant quelque argument nouveau, M. Poinceau, à bout d'expédient, murmurait, en la tutoyant par un retour de vieille habitude instinctive, Voyons, Delphine, songe à tes filles. Alors, elle les enveloppa tous deux en un regard de souverain mépris, puis s'enfuyant d'un élan vers l'escalier, elle leur jeta « Vous êtes deux misérables !» Restés seuls, ils se considérèrent un moment, aussi abattus, aussi navrés l'un que l'autre. M. Poinceau ramassa son chapeau tombé près de lui, épousseta de la main ses genoux blanchis sur le plancher, puis, avec un geste désespéré, alors que Rinaldi le reconduisait vers la porte, il prononça en saluant « Oh, nous sommes bien malheureux, monsieur !» Puis il s'éloigna d'un pas alourdi.